Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, 13h-14h, Jacques Pessis.
Andrei Makine, cet écrivain russe avait 30 ans quand il est arrivé clandestinement en France. Depuis, il a obtenu le prix Goncourt et il est devenu le Benjamin de l'Académie française. Mais comment a-t-il découvert notre littérature? En achetant des livres au marché noir à Leningrad. Et qui est intervenu pour qu'il devienne français? Roselyne Bachelot. Des souvenirs parmi beaucoup d'autres que vous allez découvrir tout de suite dans Ces clés d'une vie.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Bonjour Andrei Makine.
Bonjour.
Alors il y a ce livre, L'ami arménien, qui sort chez Grasset, qui est votre nouveau livre, on va en parler tout à l'heure. Mais surtout, vous avez un parcours hors du commun en tant qu'écrivain. Et on va l'évoquer à travers des dates clés de votre vie. Votre vie qui a commencé très loin en Russie, on va en parler. Alors la première date clé, elle ne vous concerne pas directement, mais indirectement, c'est le 16 février 1899, la mort de Félix Faure. Et je crois que ça a été une des premières énigmes de votre vie, Andrei Makine.
Oui, c'est un homme d'État qui meurt dans les bras de sa maîtresse, Madame Stanaël.
Voilà, il est président de la République. Oui. Il faut savoir que quelques heures plus tôt, il a eu une réunion difficile liée à l'affaire Dreyfus, qui veut se détendre et il appelle sa maîtresse.
Oui, et quand la police est venue, le policier en chef pose cette question mémorable à Madame Stanaël. Est-ce que vous êtes maîtresse de la maison? Elle dit non, je suis tout simplement maîtresse.
Voilà.
Donc elle a bien cadré les choses, cette dame.
Alors, si je parle de cette histoire, c'est que c'est une histoire liée à vos jeunes années et à votre grand-mère qui vous l'a racontée lorsque vous étiez en Russie, Andrei Makine.
C'était très étonnant de l'entendre. D'ailleurs, je le raconte dans le Testament français parce que c'était un autre mode de vie où un homme politique pouvait avoir ce genre d'incartade, mais il ne faut pas réduire cette maîtresse, qui était une femme brillante, juste à une relation ancillaire ou quelque chose de charnel. Parce que c'était une femme très intelligente, donc elle conseillait son amant de président.
Voilà, mais en même temps, elle s'appelait Marguerite, je crois.
Marguerite Stanaël,
voilà.
Oui.
Alors, et il se trouve que votre grand-mère vous a raconté cette vie. Et votre grand-mère est née à Neuilly, rue Pauline Borghèse, sœur de Napoléon, sœur préférée de Napoléon. Elle s'est retrouvée en Russie, où vous êtes née.
C'était assez simple à l'époque. Imaginez-vous que, par exemple, Tolstoï, il n'avait pas besoin de visa. On parle beaucoup de l'Europe aujourd'hui, de l'ouverture, voyez-vous, de ce grand ensemble de pays où on voyage en ouvrant toutes les portes, ce qui n'est pas vrai avec l'épidémie, mais ce n'était pas vrai même avant. Pour un Russe, il faut avoir un visa, pour le Français aussi, pour aller à Moscou, à Saint-Pétersbourg. À l'époque, on voyageait beaucoup plus simplement. La Russie était plus ouverte, tout comme la France. Et donc, il y avait beaucoup de Français très courageux qui s'installaient jusqu'en Sibérie.
Voilà. Alors la Sibérie, pour vous, c'est Krasnoïarsk, qui est une ville aujourd'hui qui paraît-il très polluée. Il y a un nuage noir qui circule en permanence. C'est là où vous êtes né, Andrei Makine.
Je ne pense pas qu'il soit plus pollué que les grandes villes industrielles de France et de Navarre, ni des États-Unis. Cette pollution, elle est omniprésente dans nos vies. Il y a bien sûr les grandes fumées visibles et il y a des particules. Les microparticules, les nanoparticules invisibles, hélas.
Voilà. Alors, votre grand-mère a connu cette région, elle a vécu là-dedans. C'est aussi une région où il y a eu... c'est un centre de goulag aussi, pendant les moments dramatiques.
Non, ce n'était pas le centre de goulag. Le centre de goulag, c'est plutôt Magadan, une ville qui est beaucoup plus à l'est. Mais c'est comme toute la Sibérie, c'est vrai que Krasnoïarsk n'était pas loin des barbelés.
Voilà. Alors, on dit que la Sibérie, c'est loin, il fait froid. Moi, j'ai eu la chance un jour de faire un spectacle à Omsk, en Sibérie. C'était l'été indien, j'ai rencontré des gens charmants et heureux. Ce n'est pas du tout l'image qu'on peut avoir.
Oui, mais voyez-vous, nous vivons au milieu des clichés, des poncifs. Oui, dès que je vous dis la Sibérie, vous imaginez des ours qui rôdent dans les rues, et puis les forçats du goulag qu'on voit à tout bout de champ. Ce n'est pas tout à fait vrai.
Et il y a une autre ville qui existe, c'est Penza, une rivière qui a traversé la ville. Et cette ville a une particularité, elle a un musée avec un seul tableau, je ne sais pas si vous le savez, d'un certain Myaskinov. On visite le tableau avec une salle de 37 places. Et cette ville, vous avez grandi, je crois, à Penza, Andrei Makine.
Je connais cette ville, mais finalement, dans le Testament français, il apparaît sous les traits de Saranza. De temps en temps, il faut se décoller un peu de sa biographie. Sinon, ça devient quoi? Ça devient un journal, n'est-ce pas? L'art romanesque consiste à rendre le fer plus ferreux, comme disait Gorki. Voyez-vous, il expliquait ça. Il faut typiser, il faut rendre l'existence typique archétypale, vous voyez, c'est beaucoup plus intéressant que tout simplement d'enchaîner quelques jours de son existence, toujours modeste.
Oui, mais en même temps, des jours modestes qui vous ont permis de grandir, André Makine. Il y a aussi Novgorod, qui est une ville très connue, où vous avez grandi aussi.
Nijni Novgorod, oui. Nijni Novgorod qui s'appelle maintenant Gorki,
voilà.
Enfin qui s'appelait Gorki, qui est revenu maintenant à son nom ancien, voilà. Nijni Novgorod.
Voilà. Et c'est une ville aussi célèbre pour un musicien. Le concerto numéro 2 de Rachmaninov, car
oui.
Il est né à Novgorod, il a ensuite été en Suisse et aux États-Unis, il est quand même mort à Beverly Hills. C'est quand même une grande traversée. Et c'est vrai qu'à cette époque, votre scolarité, André Makine, est assez comment dire, elle est erratique, on vous dira. C'est, la scolarité, ça n'a pas été simple pour vous au départ, en Russie.
Comment vous dire, je n'ai jamais aimé l'école. Je peux vous faire cet aveu.
Oui.
Ça me paraissait un peu trop contraignant. Je n'ai jamais été un cancre non plus, vous voyez, je réussissais assez bien. Mais il me manquait quelque chose, il me manquait cette ouverture d'esprit qui peut-être, tout simplement, était impossible à l'époque. Ce que je cherchais, c'est de lire les auteurs qui n'avaient pas de droit de citer, qui, vous voyez, il y avait, par exemple, quelques récits de Solzhenitsyn que j'ai lus sur des pages... Polycopier encore, papier carbone, vous savez comment on faisait autrefois. Et c'était le sixième exemplaire. Imaginez, 6 feuilles qu'on entrait dans sa machine à écrire. Et le sixième exemplaire, on l'appelait aveugle. Aveugle, pourquoi ? Parce qu'on voyait à peine. Et on vous rendait la copie à 6h du soir et à 6h du matin, il fallait les rendre pour quelqu'un d'autre, pour que quelqu'un d'autre puisse lire. Donc, voyez-vous, il n'y avait pas, si vous voulez, cette ouverture, ce milieu libéral. Mais en même temps, les gens, quand même, attachaient beaucoup plus d'importance à ce qui ne se disait pas. Il y avait cette liberté intérieure dont parlait Pouchkine. La liberté, esthétiquement parlant, oui, comment vous dire, du point de vue purement politique, n'existait pas. La liberté intérieure était très grande.
Voilà. Et votre liberté à l'époque, votre rêve, André Makine, ce sont les livres et le français, car vous avez appris le français très tôt.
Oui, comme tous les enfants, il est très difficile de dire que je le parlais, je le baragouinais quand même. À 3 ans, on ne parle pas, même le russe, que ce soit le russe, que ce soit le chinois ou l'anglais. À 3 ans, l'enfant baragouine un peu cette langue-là. Mais ça m'a donné quand même sans doute des bases. Enfin bon, après je l'ai étudié à l'université. Qui m'ont permis d'avoir l'oreille pour tout ce qui était français, pas seulement pour la langue. Là, on n'est pas dans la linguistique, mais ce que j'appellerais l'esprit français.
Oui, et en même temps, vous vous engagez à l'époque dans une carrière d'enseignant. Vous deviez enseigner, je crois, la philologie à l'Institut pédagogique de Novgorod.
Ce n'est pas tout à fait juste. Ce n'est pas tout à fait juste, mais j'ai travaillé, par exemple, comme journaliste. J'étais votre confrère à l'époque, vous voyez.
Avec une presse qui n'était pas aussi libre.
J'ai beaucoup enseigné. J'ai enseigné aussi à Paris, mais cette carrière, un peu comme pour Nabokov, était plutôt alimentaire, voyez-vous. J'ai toujours adoré mes étudiants, ces enfants avides d'apprendre. Mais je n'ai jamais considéré ça comme une carrière, voyez.
Non, votre carrière, votre rêve, c'était la littérature, c'était écrire.
Je commençais à écrire très tôt, je commençais à composer des poèmes quand j'étais très jeune, et ça m'a donné la possibilité de passer par cette école très rude qui est la poésie classique, avec la rime, avec le rythme, avec la métrique. Ça paraît tellement suranné aujourd'hui, voyez-vous. Et en même temps, ça vous permet d'apprendre la dictature de la rime. Chaque mot a sa place, la recherche du mot juste.
Et ça, vous l'avez conservé.
Et je pense que dans ma prose aussi, j'ai conservé ce côté poétique, oui.
C'est quelque chose de rare aujourd'hui, André Makine.
Ben, la poésie a trahi sa mission du chant dont on se souvient. Vous pouvez sans doute citer plein de poèmes en français, mais grâce à quoi ? Grâce au rythme, n'est-ce pas ? Grâce à la rime. Ça paraît si bête. Oui, pourquoi rimer ? Pourquoi prendre la peine de rimer, de versifier ? Et pourtant, c'est Verlaine, vous pouvez le citer grâce à ses rimes.
Exactement. Et puis un jour, vous avez dit, je ne pourrais pas écrire en Russie, et vous décidez de venir en France, André Makine.
Mais la France, elle m'a toujours habité. Donc, je ne sais pas qui est venu vers qui. Peut-être c'est la France qui est venue vers moi. Enfin, c'est cette France mythique. Donc, j'ai essayé de la reconstituer in situ ici en France.
Voilà. Et vous avez réussi. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 13 novembre 1995. À tout de suite sur Sud Radio avec André Imakin.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité André Imakin. L'ami arménien, votre nouveau livre, on en parlera dans quelques instants chez Grasset. Et on revient à un autre livre et au 13 novembre 1995, il est 13h et on entend ceci.
Prix Goncourt 1995 a été décerné au premier tour de scrutin à André Imakin pour le testament français.
Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là, André Imakin ?
Très difficile à exprimer le sentiment parce que les émotions sont très variées, contradictoires et on est presque insensibilisé par le flot de réactions, par le nombre de micros qui se tend vers vous. On est effaré et en même temps on est dépersonnalisé, on est autre. À ce moment, on devient autre. Vous voyez, on devient une figure que les regards des autres ont sculpté de vous. Vous n'êtes plus ce personnage. Vous sentez très peu ce personnage qu'on a sculpté de vous.
Quelques jours plus tôt, il y avait une émission de télévision présentée par Philippe Tesson, avec François Nourrissier, d'ailleurs, qui annonce en tant que secrétaire général du Goncourt votre victoire. Et c'était votre première télé. Vous aviez raconté avec passion ce livre. Ça a peut-être eu de l'influence aussi sur ce jury.
Je ne sais pas si je suis tellement persuasif. Je ne le crois pas. Enfin, je parle avec mon cœur et puis je vois comment les gens réagissent. C'était un grand courage quand même. Parce qu'en face de moi, il y avait des écrivains confirmés. Il y avait quelques confrères journalistes que vous connaissez sans
Gisbert,
doute.
Gisbert, oui.
Voilà. Et donc, voyez-vous, moi, j'étais un jeune dernier. Vous voyez, parmi eux, j'étais un outsider total. Ce que d'ailleurs le Canard Enchaîné a bien accentué dans ses articles. Oui, je pense que c'était un événement plus qu'heureux. C'est une espèce de déferlante qui s'est abattue sur moi, de bonheur, de joie, et surtout d'une immense reconnaissance, parce que cette république des lettres me reconnaissait. Voilà. Ça, c'est très rare.
Alors, vous étiez où Vous pensiez à ce prix? Vous pensiez l'avoir? Vous étiez dans le bureau de votre éditeur, Henri Imakin?
Cela a été élevé d'une façon très bizarre, parce que jusqu'au début du mois de septembre, j'étais à l'étranger. Et quand je suis arrivé à Paris, mon éditeur m'a dit « Mais attendez, où êtes-vous? Vous êtes sur la liste des Goncourt. » Je ne le savais pas. Et d'ailleurs, le roman est sorti beaucoup trop tard pour être sur la liste. Les listes devaient normalement être clôturées le 10 septembre. Et le 6 septembre, le roman sortait. Donc, à quelques jours près, la question ne se serait même pas posée.
Voilà. Alors, vous attendez ce prix? Vous ne l'attendiez pas, en fait, ce prix?
Je n'y croyais pas beaucoup. Enfin, on m'en a parlé, mais ça me paraissait invraisemblable. Ça me paraissait tellement magique. Je me dis, si la magie existe, peut-être un jour je l'aurai.
Surtout que le Goncourt, au départ, vous en avez entendu parler en Russie grâce à un collectionneur, je crois, André Imakin. Collectionnait de bandes rouges.
Et oui, il collectionnait ces bandeaux et il les mettait sur tous les livres. Vous voyez, il pensait que ça donnait une valeur supplémentaire. Mais vous savez, pour le comprendre, il faut se souvenir du mur du Berlin. La France était pour nous beaucoup plus éloignée que la Lune, que l'espace. Dans l'espace, les gens quand même venaient de temps en temps, nos cosmonautes, nos braves cosmonautes. Mais le monde dit capitaliste, pour nous, c'était vraiment un univers inconnu et beaucoup trop éloigné pour qu'on puisse l'imaginer.
Et vous avez découvert, je crois, l'existence du prix Goncourt avec un roman d'Yves Navarre qui s'appelait Le jardin d'acclimatation.
Voilà, c'est tout à fait cela. Oui.
Et un personnage, Yves Navarre, moi je me souviens l'avoir interviewé, il pleurait pendant les interviews, dépressif total, parce qu'on parlait trop de lui et pas assez de ses livres. C'est assez étonnant. C'est un personnage qui a disparu beaucoup trop tôt. Alors, il y avait à l'époque, il faut le savoir, à Leningrad, un marché noir des livres pour se procurer des livres français, André Imakin.
Pas seulement des livres, d'ailleurs, enfin, plein d'autres choses, mais les disques, par exemple. Les disques se vendaient aussi dans ce grand marché à ciel ouvert. Et les livres venaient quand même en traversant le rideau de fer. Et voyez-vous, on se dit souvent que les influences politiques pénètrent par des grands événements éclatants, par une espèce de guerre idéologique qui est toujours présente, n'est-ce pas, aujourd'hui dans notre monde. Mais parfois, voyez-vous, ces petits oiseaux qui pénétraient quand même ces livres, qui voltaient difficilement et qui perçaient ce mur du Berlin, ce rideau de fer, c'était les meilleurs ambassadeurs, finalement.
Oui, alors ce qui est extraordinaire avec vous, André Makine, c'est que vous avez le prix Goncourt, mais vous avez réussi une performance inégalée à ce jour. Vous avez en même temps le prix Médicis et le prix Goncourt des lycéens. C'est jamais arrivé.
Le prix Goncourt des lycéens m'a beaucoup, beaucoup ému. Ça m'a donné l'occasion de voir cette tranche d'âge que je ne connaissais pas du tout. Vous voyez, les adolescents français, je ne les connaissais pas. Et j'ai fait des rencontres, je suis allé dans des écoles, dans des lycées, j'ai rencontré ceux qui m'ont plébiscité.
Mais en même temps, avoir trois prix aussi importants la même année, encore une fois, qu'est-ce qu'on ressent, André Makine ? On finit par s'habituer ?
Vous savez, il faut garder une très grande humilité, et il faut s'interdire toute posture, parce que la posture n'est pas loin de l'imposture. Et je pense que je me suis bien gardé en me souvenant de ces mot de Flaubert qui disait la seule devise, faire et se taire. Et donc je l'ai presque réussi. Bon, il fallait parler quand même à vos confrères, les journalistes, mais il fallait rester dans l'écriture. Et j'ai continué tranquillement à écrire mes livres.
Voilà, parce que vous avez, pour arriver à ce concours, énormément travaillé. Vous n'avez vécu que par les livres et pour les livres.
J'ai déjà publié. Donc voyez-vous, oui. Quand vous dites, mais quel effet ça a pu vous faire? Enfin, j'ai déjà publié, donc je n'étais pas le perdreau de l'année, en quelque sorte. Vous voyez,
il y avait un travail énorme derrière.
Il y a un travail énorme, il y a surtout une centaine de refus. On oublie de le dire, mais le Goncourt, enfin le futur Goncourt, a été refusé par une centaine de maisons d'édition. Donc, voyez-vous, ça m'a aguerri.
Voilà. Alors, il y a une dame qui vous a un jour découvert, qui a découvert votre manuscrit, Simone Gallimard, qui nous a quittés, d'ailleurs, juste après votre concours, je crois. Elle avait aussi été impliquée dans une autre histoire. Émile Ajar, c'était elle aussi qui connaissait le secret de Romain Gary.
Les réseaux sociaux n'existaient pas encore. Aujourd'hui, je pense que ça aurait été impossible.
Mais c'est vrai qu'un jour, elle a découvert votre manuscrit, elle y a cru tout de suite.
Elle m'a appelé à 10h du soir. Et il m'a dit, écoutez, voilà, vous avez écrit un chef-d'œuvre. Bien sûr, ça, je me suis assis tout de suite pour ne pas tomber par terre. Mais vous savez, c'est un roman très, très littéraire, donc on va tirer à 2000 exemplaires. Si on en vendait 1500 exemplaires, on serait très heureux. Donc quelques mois après, malheureusement, il ne l'a pas vu de son vivant. Il atteignait 500 000 exemplaires, oui.
C'était extraordinaire. Alors, il faut savoir aussi que ce roman, c'est un... Vous déclarez votre amour à la culture française.
Oui, oui. Pas seulement mon amour, mais comment vous dire, une énorme, énorme dette que j'ai vis-à-vis de cette culture. Et je ne suis pas seul dans ce cas. La place de la littérature française a toujours été particulière. Vous voyez, si je vous demandais maintenant, on inverse nos rôles, si je vous demandais maintenant de me nommer le plus grand écrivain allemand, Goethe vient tout de suite. Enfin, vous n'y pensez même pas. Ouais. Anglais,
Shakespeare,
voilà. N'est-ce pas? Espagnol,
Cervantes,
oui. Voilà. Et les Français.
Et voilà.
Et voilà. Balzac, ah non, Rabelais, ah non, Proust, ah ben non, Voltaire, et les Russes.
Gorky, Tchekhov.
Mais Tolstoï. Quelqu'un d'autre vous dirait, mais non, attendez, Dostoïevski. Donc il y a deux pays dans ce monde, sur cette planète, qui ont toute une pléiade de très grands écrivains. Il est très difficile de nommer vraiment le plus grand. Même si André Gide, comme vous le savez, quand on lui posait la même question, quel est le plus grand écrivain français, il disait Victor Hugo. Hélas. Donc, à quel point c'était méchant, vous voyez, par rapport à notre victoire nationale.
Voilà. Alors, je sais aussi que vous croyez à la vocation d'écrivain et que vous dites que la vie de l'écrivain commence après sa mort.
Je le crois véritablement, parce que là, vous savez, ce qu'on fait, c'est une expérimentation. Vous voyez, c'est une expérimentation. Vous prenez une sorte de chrysalide, et puis finalement, vous dites, mais il y a à l'intérieur, il y a un papillon. Attendez que le papillon, dans l'autre vie, commence à voler, comme des livres, n'est-ce pas? Le papillon ou bien vole, ou bien tombe et meurt. Il y a quand même mais un nombre incalculable d'écrivains complètement oubliés.
Voilà. Oui. Mais en tout cas, vous êtes bien vivant et on va continuer à parler de vous et de vos livres avec une autre date, le 3 mars 2016. À tout de suite sur Sud Radio avec André Makine.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Andrei Makin. L'ami arménien, votre nouveau livre, on en parlera tout à l'heure. Mais il y a une date importante dans votre vie, c'est le 3 mars 2016. Ça vous dit quelque chose quand même? C'est votre élection à l'Académie française.
C'est l'élection, oui. Ce n'est pas la réception sous
non,
la
c'est
coupole,
l'élection.
Mais c'est l'élection. Oui.
Au premier tour, hein, avec 15 voix sur 26. C'est une élection de maréchal, comme on dit.
Non, pas du tout, pas du tout. Non, non, j'aurais pu avoir, j'ai eu quand même quelques croix
oui.
bien tracées. Et donc, c'est une bonne élection, tout à fait honorable, oui.
Alors, vous occupez le fauteuil d'une romancière algérienne disparue, Assia Djebbar. Et comment êtes-vous arrivé dans cette élection à l'Académie française? Parce qu'on part d'un roman, on part de Russie. Et derrière l'Académie française, la coupole, c'est pas n'importe quoi, Andrei Makin.
C'est très impressionnant, oui, c'est très impressionnant. À plusieurs égards, on pourrait en parler. Mais je connaissais déjà quelques académiciens que j'appréciais beaucoup, dont mon ami Dominique Fernandez, qui faisait tout pour me pousser vers l'Académie, me disant, même si ce n'est pas peut-être tellement important pour toi, parce que tu as ton œuvre, tu peux continuer à écrire, c'est important pour l'Académie, pour la Russie. Et cet argument, c'est important aussi pour la Russie. Je pense qu'il avait assez raison. La Russie est extrêmement vilipendée aujourd'hui, on le sait, parfois à juste titre, parfois de façon parfaitement injuste. Et donc, il semble, lui, grand amateur de la Russie, grand connaisseur de la Russie, et il pensait que ça pourrait peut-être corriger un peu l'image des Russes en France.
Voilà. D'ailleurs, vous avez dédié votre nouveau livre, L'ami arménien, à Dominique Fernandez.
Dominique, oui.
C'est pas sans raison. Alors, vous êtes candidat, il faut faire les visites. Comment ça se passe à ce moment-là, André Makin?
C'est le moment que j'appréhendais le plus. Je me disais ça allait être très, non pas hypocrite, mais guindé, affecté, oui, qu'il y aurait toujours quelque chose de pas très naturel dans ces conversations. Et finalement, j'ai vu très peu d'académiciens. Très, très gentiment, ils m'ont répondu qu'ils me connaissaient déjà, donc ce n'est pas la peine de me voir en chair et en os. Et j'ai rencontré, par exemple, un homme absolument admirable qui vient de nous quitter il y a un an, déjà presque il y a un an. C'est Yves Poulikhen, le professeur Poulikhen, qui un jour m'a dit quelque chose, enfin, justement pendant cette visite académique, il m'a dit, écoutez, c'est un grand ophtalmologiste. Il m'a dit, j'ai opéré les chefs d'État et j'ai opéré les clochards. Et voyez-vous, cette ouverture, elle est magnifique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'était pas claquemuré dans son prestige, dans son statut social, mais qui allait vers les humbles.
Alors, cette élection a lieu. Il y a même un adolescent de 15 ans qui s'appelle Valentin Augier qui s'est présenté parce qu'il y a une date limite qui est 75 ans pour se présenter, mais il n'y a pas de date de minimum d'âge. Donc, il a eu 0 voix, mais il s'est présenté ce jour-là.
Oui. Donc, est-ce qu'à 15 ans, on a la majorité en France? Non,
non, non c'est 18 ans.
C'est 18 ans.
Mais
donc,
il avait le droit de se présenter.
On peut être mineur et quand même se présenter. C'est très encourageant pour les jeunes, oui.
Alors, où êtes-vous à ce moment-là? Comment apprenez-vous votre élection, Andrei Makin?
L'élection, on est chez soi, tranquillement. Et puis, on vous appelle, on vous annonce l'heureux événement, oui.
Et on a, encore une fois, un sentiment...
On a le cœur qui bat, nécessairement, oui. Mais c'est 400 ans d'histoire. Voyez-vous, vous connaissez bien sûr cet adage. Pour être, il faut avoir été. Il faut avoir été. C'est très juste. Nous ne sommes pas ce que nous sommes seulement dans les limites, dans ce laps de temps très court de notre existence. Mais nous télescopons en nous tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on connaît d'un pays, tout ce que la civilisation d'un pays nous a apporté. Donc nous avons ces prolongements et l'Académie le symbolise assez bien quand on voit les monstres sacrés qui étaient là, qui partageaient, disons, les mêmes sièges, vous voyez, que nous, le même Victor Hugo.
Mais quand on a commencé en Russie, en Sibérie, qu'on se retrouve dans un fauteuil de l'Académie, on mesure le parcours, Andrei Makin.
Mais j'ai vécu dans une situation, grâce à la poésie, dans une situation que je pourrais qualifier de magique. Voyez-vous, le sonnet, c'est magique quand même.
Oui.
Vous prenez ces strophes et tout à coup quelque chose naît. Mais de quoi? De vos mots. Finalement, on répète « verbum caro factum est », n'est-ce pas? Le mot devient cher. Et c'est exactement, enfin, on imite un peu Dieu, le Tout-Puissant, en rimant les mots. Et comme j'ai vécu dans cet étrange monde poétique, certains aléas de ma vie me paraissaient non pas naturels, mais, comment vous dire, acceptables pour un esprit qui serait beaucoup plus imbu de certitudes rationnelles. Je n'étais pas rationnel. Je pensais que le miracle pouvait arriver, et de temps en temps, il est arrivé.
Ah oui, il est arrivé. Alors, vous avez l'épée d'académicien, qui est avec des saphirs, des diamants et des rubis, et des émeraudes. Vous avez la visite traditionnelle au chef de l'État, qui était François Hollande à l'époque. Et ensuite, il y a la réception. Alors, on doit toujours faire l'éloge de son prédécesseur. Pour vous, ça va être un peu différent. Vous allez parler de la Russie pendant le jour de votre arrivée à l'Académie.
Non, ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact parce que j'ai longuement parlé d'Assia Djebar.
Oui.
Qui est un écrivain, une femme de lettres très dense, avec des romans engagés, qui est un cinéaste, qui est un professeur qu'on connaît d'ailleurs ici en France, mais aussi aux États-Unis. Donc c'est une vraie personnalité. J'ai quand même consacré, je ne sais pas quelle était l'exacte partie de ce discours, mais Assia était présente, hein, Assia Djebar était très présente dans ce discours. Je me suis permis d'évoquer dans ce discours mon ami Jean-Claude Servan-Schreiber. Non pas Jean-Jacques, mais Jean-Claude. J'insiste bien pour vos auditeurs, parce qu'on mélange souvent les deux cousins. Jean-Claude Servan-Schreiber, à qui j'ai consacré un livre, publié d'ailleurs chez Grasset, par Olivier Nora, « Le pied du lieutenant Schreiber ». C'était un héros oublié, comme c'est souvent, ça se passe souvent dans nos pays amnésiques. Et j'ai essayé de restituer sa biographie, sa vie. Et ce qui m'a vraiment touché et ému, c'est que Jean-Claude ait pu venir à la réception sous la coupole. Il était là, il a entendu tout le discours et entendu même un petit poème que lui a consacré un de ses camarades de régiment.
Alors, ce qui est étonnant avec vous, André Imakin, c'est que vous êtes arrivé en France à 30 ans, clandestinement. À l'époque, vous n'avez même pas eu vos papiers. Vous avez obtenu l'asile politique et pendant des années, vous n'avez pas été régularisé.
Oui, mais est-ce tellement important, après tout, vous savez,
c'est insolite, en tout cas.
C'est insolite, mais si vous voulez, je ne me sentais pas malheureux. Le monde m'appartenait. Voyez-vous, il suffit tout simplement de se réduire à l'essentiel. Quand on réduit ce qu'on voit, ce qu'on sent à l'essentiel, on est très riche.
Oui. Oui.
De chaque instant de sa vie.
Mais je sais même que Roselyne Bachelot a essayé de vous aider à l'époque pour obtenir vos papiers et que ça a marché, mais après le Goncourt.
Après le Goncourt, c'est plutôt Jacques Chirac qui est intervenu. Il a appris que je n'étais pas citoyen français. Et cela a été réglé assez rapidement, oui.
Et quand vous avez commencé à écrire, vous avez aussi, je crois, André Imakin, usé d'un subterfuge. Vous avez dit que vos premiers romans étaient traduits du russe par deux personnes totalement inconnues.
Le problème, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui la littérature francophone n'était pas encore si à la mode. Aujourd'hui, on est dans l'autre extrême, c'est-à-dire dès que un étranger vous dit, écoutez, je viens d'Afrique, mais j'écris en français, cela est considéré comme son passeport vers la littérature, n'est-ce pas ? Et pour moi, c'était un peu plus délicat. C'était quand même il y a plus de 30 ans, n'est-ce pas ? Et donc, il fallait trouver ce subterfuge pour cacher mes racines russes et surtout mon accent russe. Imaginez un éditeur, vous êtes un éditeur, quelqu'un vient vous voir, elle vous transmet un manuscrit qui est écrit dans un très bon français, mais qui parle avec un accent. Donc vous vous dites, s'il parle avec un accent, il écrit avec un accent. Et donc nécessairement, on essaye de chercher les petites bêtes, je ne sais pas, une virgule mal placée ou un subjonctif qui n'est pas très très bien appliqué dans un cas précis. Et on se dit, mais non, il y a quand même un petit accent russe, ce qui n'était pas du tout le cas.
Oui, parce qu'en plus, on voit des images de vous avec des dictionnaires, des livres. Vous avez vérifié toujours chaque mot avant de l'écrire, André Imakin.
Oui, mais le travail lexicographique, enfin, d'ailleurs, c'est le socle de l'académie, le travail lexicographique. Donc, on étudie la langue et on défend la langue telle qu'elle a toujours été, avec certains néologismes, bien sûr. L'académie n'est pas du tout fermée. Mais la langue m'intéressait toujours. La langue, c'est la pensée, vous savez, c'est notre nature. Nous sommes des êtres linguistiques. Avec l'homme, nous sommes passés du monde vécu au monde parlé. La grande révolution est là.
Et puis, vous avez aussi usé plus tard d'un autre subterfuge, quand vous étiez connu. Vous avez écrit 4 romans sous un pseudonyme, volontairement, pour montrer autre chose.
Oui, sans doute. Gabriel Osmonde, tel était mon pseudonyme, pourquoi ne pas y revenir un jour, me permettait d'atteindre des strates de l'existence, des sphères de notre vie sociale, de notre vie physique et métaphysique, que Makin n'aurait pas abordé, naturellement. Donc, voyez-vous, j'avais besoin de cela. Mais après tout, vous avez mentionné Tchekhov tout à l'heure. Tchekhov, il avait une vingtaine de pseudonymes, on l'oublie maintenant. Kierkegaard, le philosophe danois, il changeait de nom à chaque livre. Il disait, mais non, c'est un autre homme qui écrit déjà. Oui.
Et personne s'en est aperçu, vous l'avez avoué quelques années après.
Non, ceux qui m'ont trahi, c'était les universitaires, parce que les universitaires, ce sont des stylistes. Ils lisent, mais très attentivement, les deux textes, ils disent, mais non, attendez, il y a quand même quelque chose. Il y a cette musique qui transparaît chez Osmonde, ça me rappelle quelqu'un. Donc, ils m'ont trahi. Bon, tant pis.
Voilà. En fait, l'université aussi, vous auriez pu faire une carrière universitaire en littérature slave. Vous l'avez envisagé au temps où les livres ne se vendaient pas
Non, pas du tout, pas du tout. Là, j'ai fait un doctorat, donc... consacré à l'un des grands écrivains, l'un des meilleurs écrivains russes, Ivan Bounine, très peu connu, mais qui est enterré d'ailleurs. Sa tombe est à Saint-Geneviève-des-Bois, donc elle est enterrée à tout près de Paris. Et il n'était pas traduit du tout, il était mal traduit, terriblement mal traduit. Il était très méconnu en France. Tchekhov qui disait, mais attendez, cher Ivan, parce qu'ils étaient de grands amis, il disait, mais vous écrivez de façon tellement subtile que quand je relis mes propres récits, j'ai l'impression que je les ai faits à la hache. Donc c'est un très grand styliste. Il était très méconnu. Je me suis dit, il faut faire un doctorat, l'université va s'en emparer et Bounine va être connu.
Et ça a marché, effectivement, grâce à vous. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que vous dites que les Russes lisent beaucoup plus que les Français et finalement, vous êtes dans le moule. Vous êtes un Russe qui défend le français, qui continuera à le défendre.
Non, les Français, la France est un pays béni pour les livres. Vous savez, malgré toutes les nouvelles technologies qui arrivent, les Français lisent encore. On peut encore avoir des batailles, non pas la bataille d'Hernani, mais assez semblable finalement, oui, au sujet d'un livre, au sujet d'un mot mal placé, au sujet d'un auteur. Et c'est magnifique. C'est seulement en France et en Russie qu'on peut avoir ça.
Voilà. Et un livre, justement, on va en parler dans quelques instants à travers une autre date, le 6 janvier 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec André Makin.
Sud Radio, les clés d'une vie de l'été, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité André Makin. Donc on a parlé de votre Goncourt, de votre Médicis, de l'Académie française, et vous continuez à écrire. La preuve, le 6 janvier 2021, est sorti L'ami arménien chez Grasset, un nouveau roman, sur l'Arménie, mais pas celle d'aujourd'hui, celle au temps de la Russie.
Et plus que ça, parce que dans le récit de la mère de mon ami, le livre lui est dédié en quelque sorte, apparaît aussi l'Arménie éternelle, si j'ose dire, parce que l'Arménie, c'est un pays extraordinaire, plusieurs millénaires d'histoire, une histoire fabuleuse. La capitale d'Arménie est plus ancienne que Rome, c'est étonnant. Voyez-vous, on n'a pas cette perspective, même dans des pays aussi anciens que la France, n'est-ce pas ? La Russie, n'en parlons pas. Voyez-vous, on parle souvent de l'ancienneté des pays, mais si on évoque ne serait-ce que le milieu du 5e siècle, la mère, elle s'appelait Chamiram, la mère de mon ami, nous parlait de cette date en disant Ouais, il y avait à cette époque-là une armée arménienne qui a dû se battre contre les Parthes ou les Perses, je ne me rappelle plus. Et quand je me suis rendu compte qu'il s'agissait du milieu du 5e siècle, 450 ou 52, je me suis dit, mais attendez, la Russie n'existait pas encore. La Turquie non plus. Et même la France. La France, Clovis n'était pas né. C'était même pas encore un bébé. Et quand il y a eu le baptême de Clovis, 496, l'Arménie était déjà chrétienne depuis deux siècles. Donc finalement, c'est l'Arménie, c'est la fille aînée de l'Église et la France plutôt la fille cadette de l'Église.
Alors, l'ami arménien, il s'appelle Vardan, c'est un garçon de 13 ans qui va vous apprendre beaucoup à travers des métaphores dans ce livre, André Makine. Est-ce qu'il y a quelque chose de vrai? Est-ce que ce garçon, vous l'avez connu? Parce que je crois que ce récit, il y a quand même un côté autobiographique.
Ce côté, il est indéniable. Mais voyez-vous, un enfant de 13 ans que j'étais, là, Vardan avait 14 ans à l'époque, il était un peu plus âgé que moi. Il n'aurait jamais pu écrire ce roman, n'est-ce pas? À 13 ans, on n'a pas justement cette vision. Il a fallu que je vive toute ma vie pour avoir du recul, pour avoir ce décalage chronologique et pouvoir imaginer ce garçon. Donc, bien sûr, c'est moi, mais si, je ne sais pas, un tout jeune enfant, Jacques Pissis, de 5 ans, entrait dans cette pièce, on ne l'aurait même pas reconnu. On se serait dit, mais quel est ce bambin? On ne reconnaît pas. Ces enfants ou cet adolescent que vous fûtes et que je fus, ils n'existent même plus. On passe plusieurs étapes de notre vie et il y a des personnages qui se détachent de nous. Ce personnage du narrateur s'est détaché de moi et je l'ai rejoint et la rencontre est éblouissante aussi pour moi. Comment tout à coup me retrouver dans la peau de ce garçonnet de 13 ans?
Voilà, le garçonnet de 13 ans qui est orphelin. D'ailleurs, alors, on a aussi dit, parce que vous êtes très secret sur votre vie, que vous aviez été orphelin. Est-ce que c'est vrai, André Makine?
C'est tout à fait vrai, mais je ne suis pas secret. Mais voyez-vous, raconter en 5 minutes, un laps de temps dans sa vie qui paraît tellement important, on ment finalement par omission, par réduction à une substance qu'on raconte très mal. Vous savez ce qui est arrivé un jour à Maïakovski, le grand poète que vous connaissez sans doute, en allant à Omsk. Maïakovski était l'amant de Lili Brick, et donc, entre autres. Et un jour, ils étaient réunis avec leurs amis, et Lili commence à raconter quelque chose de fabuleux, une petite anecdote, mais très très intéressante. Et Maïakovski l'attrape par la main et dit « Tais-toi ». Tu vas le raconter dans un roman. Et ce n'était pas seulement par quelques cupidités d'écrivain en disant non, il faut garder tout pour soi, mais en tant que poète, il comprenait très bien qu'il va raconter cette chose fabuleuse en deux mots, en la déformant, en la dénaturant, en le livrant comme des perles au pourceau, et finalement se retrouver avec quoi? Avec quelques notations ridicules au lieu de faire une œuvre.
Alors, cette œuvre, justement, elle se passe dans les années 60-70, au temps où l'URSS est encore l'URSS, et les massacres sont nombreux, et il y a une communauté arménienne qui s'est installée en Russie, que vous avez peut-être connue là-bas, André Makine.
Ils ne se sont pas installés, c'était vraiment, comment vous dire, un séjour très bref. Ils sont venus pour assister au tribunal, au jugement qui devait normalement décider du sort de leurs proches. Vers 1965, donc c'était le cinquantenaire du génocide arménien, il y a eu ces quelques velléités d'indépendance. Et cela a toujours été, comment dire, bloqué par le pouvoir central, mais comme dans tous les empires, le pouvoir central doit, se prémunir contre les visées centrifuge. On retient les provinces. La France aussi le fait avec la Corse, par exemple, n'est-ce pas? Dès qu'il y a quelques velléités, stop, niet. Chaque pays le fait à sa façon, n'est-ce pas? Et donc, dans la Russie, un État totalitaire, autoritaire, c'était encore plus vrai. Et donc, dès qu'il y a eu comme ça des nationalités qui levaient la tête, il fallait leur dire « Non, 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 on vit en Union soviétique, on est tous égaux et surtout pas de séparatisme. »
Voilà. Et cette communauté arménienne que vous racontez, elle vit dans des conditions pas simples, une petite pièce avec des valises qui servent de lit.
Oui, il vivait de façon extrêmement précaire et très provisoire aussi. Mais ce qui m'a étonné, c'est que, voyez-vous, avec quelques détails, ils reconstituaient leur mode de vie, leur pays, parce qu'il y avait cette horloge solaire sur un mur. Ils, comme tous les peuples qui ont subi des exodes et des exactions qui les jetaient comme ça sur les routes, les Arméniens avaient l'art de reconstituer un habitat presque, enfin, miséreux, mais en même temps suffisant pour leur bonheur.
Oui, c'était à 5000 km de chez eux, oui. C'était loin, mais en même temps, ils étaient là et ils étaient menacés ou des camps ou de partir très loin.
Ceux qui étaient en prison, pas ceux qui les attendaient. Oui. Ils étaient innocents, n'est-ce pas? Ils sont venus par solidarité parentale ou amicale, veiller sur les autres. Mais ce qui m'a étonné, justement, quand j'ai rencontré ce garçon, c'est plutôt sa capacité. Vous voyez, nous parlons, vous avez parlé de, je le vois encore, ce lit fait avec deux valises. Mais ce qui m'étonnait, c'est que malgré les misères et les blessures de son peuple, qu'a subi son peuple, malgré sa propre maladie, parce que le garçon a été atteint d'une maladie qu'on appelle d'ailleurs...
La maladie arménienne. Qu'on ne soignait pas à l'époque.
À l'époque, c'est une maladie terrible. C'est une maladie génétique. Et l'enfant peut se sentir très bien pendant une semaine. Et tout à coup, il y a une rechute. Et à l'époque, on ne le soignait pas. On a trouvé un médicament. Donc maintenant, c'est presque une infection, enfin une maladie bénigne. Et malgré tout cela, l'enfant savait construire son monde à lui, un monde où, vous voyez, toutes ces misères, toutes ces blessures, toutes ces douleurs n'empêchaient ni la tendresse, ni le plaisir, ni le bonheur. Donc, il avait une sorte d'autonomie existentielle.
Et vous a beaucoup appris.
Et il m'a appris des choses, justement des choses poétiques. Grâce à lui, j'ai commencé à écrire mes premiers poèmes. Il avait ce regard décalé qui était complètement rejeté par les autres. Vous voyez, vous pouvez voir le ciel et puis dire, mais attends, le ciel n'est pas là-haut, le ciel commence sous nos sommets. Et c'est tout à fait vrai, si on y réfléchit un instant. Donc c'était un poète, oui, un jeune poète.
Et ce poète, effectivement, vous n'avez pas fait les 400 coups, mais il vous a montré les choses. Vous avez creusé des trous, vous êtes caché dans des cubes qui étaient une sorte de prison à l'époque. C'était
non,
des jeux d'enfants.
On ne considérait pas ça comme cela. Vous voyez, quand vous parlez de ce trou, enfin, c'était une excavation assez importante. Finalement, Vardan pensait, mais naïvement, c'était une pensée d'enfant, il pensait pouvoir construire un tunnel et sauver les Arméniens qui étaient emprisonnés, qui purgeaient, enfin, non pas encore leur peine, mais en tout cas, ils étaient en détention provisoire. Mais c'était bien sûr naïf et tout à fait irréaliste.
En même temps, vous avez appris à cette époque-là, vous avez découvert l'alphabet arménien, qui n'a rien à voir, vous avez découvert le vin arménien, qui est très doux. Ce sont des choses qu'on ne connaît pas, finalement, que vous avez gardées comme souvenir d'enfance et transcrit dans ce livre, André Makine.
Oui, j'ai découvert. Mais ça, vous parlez plutôt de la couleur locale. Et vous avez tout à fait raison d'en parler. Pourquoi ? Parce que moi, j'attachais d'abord la singularité de Vardan, de mon ami, à ces choses-là. Je me disais, mais écoutez, le pays est tellement étrange, cette Arménie est tellement mystérieuse, et sa façon de voir, sans doute, il la doit à sa patrie. Et puis j'ai compris que finalement, sa singularité était beaucoup plus prégnante et beaucoup plus profonde. Tout simplement, cet enfant qui allait mourir, il refusait le monde tel qu'il était. Il refusait ce cirque de cupidité, de prédation, d'agressivité dans lequel nous vivons. Il rejetait ce monde.
Et dans lequel vivait la Russie, il y avait des rixes mortelles à l'époque, il y avait des viols par des bandes organisées, tout y passait. Et vous le racontez, André Makine.
Oui, cher Jacques Pessis, mais voyez-vous, dans les églises russes, on ne décapitait pas les prêtres, j'ose vous le signaler. Et il n'y avait pas, sur les promenades des villes méridionales russes, un camion fou qui écrasait 80 personnes. Il n'y avait pas une poignée d'enfants à Toulouse, suivez mon regard pour la radio du Sud, Sud Radio, oui, où ces enfants froidement étaient abattus à bout portant. Donc quand on compare les deux pays, Vous savez, loin de moi l'idée de défendre la Russie, surtout la Russie soviétique. Jamais, jamais. Mais, voyez-vous, comparons ce qui est comparable. Et souvent, d'ailleurs, l'Occident a tendance à se mettre sur ses ergots et à donner des leçons de morale et de bonne conduite au monde entier. Mais il faut peut-être balayer devant sa porte. Plus que balayer, il faudrait peut-être une tractopelle aujourd'hui, tellement il faudrait enlever de choses, vous voyez, des mensonges, des fake news, comme disait l'autre. Et il y a, dans ce beau pays qu'est la France, chaque année, 75 000 femmes qui sont violées. Et tout le monde ne porte pas plainte. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce chiffre, terrible? C'est-à-dire, pendant qu'on parle, et on parle déjà sans doute presque une heure, il y a 5 femmes qui ont été violées statistiquement, battues, défigurées. Voyez-vous, quand vous dites, oui, il y avait des rixes en Russie, bien sûr, la criminalité existe toujours, même sous Staline, ça existait. Mais, et avec le goulag, c'est effrayant, ce système carcéral. Mais même dans un pays, ça prouve que notre vernis de civilisation, elle est extrêmement mince, voyez-vous. Et dès qu'on le gratte un peu, on trouve la sauvagerie que rejetait justement Vardan. Il disait non, cette prédation, cette agressivité, je ne l'accepte pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le monde est trop beau. Et les personnes peuvent nous donner avant tout la bonté et non pas leur agressivité et leur sauvagerie.
Alors, je précise que dans ce livre, L'ami arménien, vous évoquez une Arménie qui n'a rien à voir avec celle que Charles Aznavour a chantée. Pour toi, l'image de l'Arménie aujourd'hui, c'est Aznavour qui au départ ne s'intéressait pas à l'Arménie, qui lorsqu'il y a eu un tremblement de terre a dit je veux aider ce pays et il a été ensuite ambassadeur de Suisse en Arménie et il y a aujourd'hui un musée Aznavour en Arménie. Ça n'a rien à voir avec cette Arménie-là, je crois, André Mackey.
Le tremblement de terre a eu lieu à la fin des années 80. C'était encore l'Union soviétique. Qu'est-ce qui s'est passé, savez-vous, à part Aznavour dont je ne minimise pas du tout l'apport à cette pauvre Arménie. Mais tous les peuples de l'Union soviétique ont réuni leurs forces pour aider ce pays, pour reconstruire ce pays. Et puis, l'Arménie, c'est tout à fait son droit, a dit, écoutez, merci et au revoir. Mais voyez-vous, cette Union soviétique dont nous parlons, il y avait quand même quelque chose de fraternel entre les peuples différents. C'est tellement difficile d'atteindre cette compréhension, cette fraternité entre les peuples. Les peuples se déchirent aujourd'hui. Et certaines grandes démocraties font tout pour qu'ils se déchirent. Regardez la Libye, regardez l'Irak, regardez la Syrie. Et il y avait quand même, disons le mot, l'internationalisme qui nous réunissait, qui permettait de voir l'être humain à travers ses caractéristiques religieuses, sexuelles, la couleur de sa peau, etc. Et ce n'était pas une mauvaise chose.
Oui, et l'Arménie que vous racontez n'a rien à voir. Ce livre s'appelle L'ami arménien, c'est un roman qui est un conte en même temps et que vous avez mis des mois à écrire.
C'est un roman très réaliste, donc un conte, vous le gardez pour vous, vous l'avez lu comme ça.
Oui, mais il y a aussi un côté conte derrière avec ce côté réaliste, un mélange des deux. C'est chez Grasset, merci André Imakine d'avoir de l'avoir écrit, merci de continuer à écrire et de défendre la langue française.
Merci à vous.
Et Clé d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.